Comment étudier une langue avec les phosphènes? Étude à partir d'une méthode audio. La plupart des méthodes d'enseignement des langues comportent des cassettes, de façon à faire entendre l'accent et les sonorités de la langue. Le phosphène, s'associant parfaitement avec la pensée auditive et avec les sons, on aura tout avantage à écouter le cours sous phosphène pour améliorer l'accent et la prononciation. Vous laisserez donc filer la cassette en fixant la lampe jusqu'à percevoir la coloration bleutée tout en portant votre attention non sur le phosphène mais sur le contenu du cours. Après extinction, lors de l'étude des phrases, analysez la première jusqu'à ce que vous en compreniez bien le sens. Lorsque le phosphène aura disparu, vous fixerez à nouveau la lampe et vous réécouterez la phrase. Vous mettrez votre magnétophone sur pause et vous répéterez immédiatement la phrase, à voix haute, puis mentalement. Le plus souvent, un espace blanc permet de prononcer la phrase, celle-ci étant ensuite répétée par un animateur. Vous répéterez donc la phrase à haute voix et vous écouterez à nouveau la prononciation. Vous arrêterez alors votre magnétophone et répéterez la phrase plusieurs fois de suite à voix haute. Puis continuerez cette répétition, mais cette fois mentalement jusqu'à disparition du phosphène. Vous referez un phosphène et vous réécouterez cette même phrase pour la répéter à nouveau plusieurs fois à voix haute et plusieurs fois mentalement. En pratiquant ainsi, vous entraînerez la mémoire motrice et la mémoire auditive à saisir les différents aspects sonores de la langue. De plus, les phosphènes améliorent la prononciation et permettent de prendre la bonne intonation. Ce n'est donc pas une perte de temps que de s'attarder un peu sur chaque phrase jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'erreur. Vous passerez ensuite à la phrase suivante en refaisant un nouveau phosphène.
Pour une étude à partir d'un livre, le processus sera le même. Vous ferez un premier phosphène pour lire le texte à étudier. Pendant la fixation, vous répéterez à voix haute le titre de la leçon, puis vous lirez une première partie à voix haute jusqu'à ce que le phosphène disparaisse. Chaque fois que vous rencontrerez un mot nouveau, une phrase que vous ne comprendrez pas ou un passage que vous aurez du mal à prononcer, vous le noterez sur une feuille et poursuivrez votre lecture jusqu'à la fin du texte ou de la partie en question. Si le passage est court, vous pourrez le lire plusieurs fois jusqu'à disparition du phosphène. Après ce survol du texte, vous reprendrez l'étude paragraphe par paragraphe, en commençant par les mots nouveaux que vous aurez notés. Vous chercherez la traduction du premier mot nouveau et vous l'écrirez en face du mot sur votre feuille. Vous lirez plusieurs fois le mot en faisant bien attention à l'orthographe. Puis, vous referez un phosphène. Pendant la fixation, vous prononcerez le mot à voix haute, tout en l'imaginant écrit dans le phosphène. Vous pouvez aussi l'épeler, si possible en prononçant les lettres, dans la langue que vous étudiez. Après extinction de la lampe, vous répéterez le mot et sa traduction de façon assez rythmée.
Par exemple, en anglais, comprendre se dit to understand. Pour apprendre ce verbe, il suffit donc de répéter to understand, comprendre. To understand, comprendre. To understand, comprendre. Jusqu'à extinction du phosphène. Puis, vous passerez au mot suivant en pratiquant de la même façon, c'est-à-dire pendant la fixation étude de l'orthographe en imaginant le mot écrit dans le phosphène, puis, après avoir éteint, répétition du mot et de sa traduction. Au début, il est bon d'étudier un mot sur un phosphène complet, mais avec l'habitude, on s'aperçoit que l'on retient très rapidement et que l'on peut étudier un second mot durant le même phosphène et ensuite peut-être 3 ou 4 mots d'affilée. Si vous connaissez un synonyme du mot dans la langue, vous remplacerez la répétition de la traduction par la répétition du synonyme. Cela permet de prendre un automatisme et d'apprendre à réfléchir dans la langue elle-même. Pour faciliter ce processus, on peut alterner répétition à voix haute et répétition mentale. Si vous ne connaissez pas de synonyme, vous pouvez remplacer la traduction par la représentation mentale de ce qu'il désigne. Par exemple, en anglais, pour « house », vous imaginerez une maison au lieu de répéter la traduction. On répétera donc le mot à voix haute tout en ayant à l'esprit la représentation mentale. Les enfants apprennent très rapidement de cette façon et, en prenant cet automatisme, ils évitent ensuite l'obstacle de la traduction mot à mot pour les locutions et les expressions.
Étude des expressions. Si vous avez noté une phrase ou une expression que vous ne comprenez pas, cherchez-en le sens. En pratique, de la même façon, rythmique sous phosphène. En répétant la phrase et sa traduction, puis, éventuellement, la phrase et une phrase qui veuille dire la même chose. Enfin, la phrase et la représentation mentale de ce qu'elle évoque. En général, un phosphène suffit pour l'étude de chaque expression. Mais en cas de difficulté particulièrement importante, il faut à nouveau mixer cette difficulté jusqu'à ce qu'elle disparaisse.
Pour les règles de grammaire, l'étude des règles de grammaire nécessite surtout de s'entraîner aux applications pratiques. Vous commencerez donc par lire la règle pour bien la comprendre, en vous aidant des exemples qui l'accompagnent, et cela, toujours sous phosphène. Puis, vous referez un phosphène en vous remémorant la règle et un exemple. Pendant la présence du phosphène, vous ferez les exercices d'application jusqu'à les réussir parfaitement. N'hésitez donc pas à les refaire plusieurs fois et refaites autant de phosphène que nécessaire. Si votre vocabulaire le permet, vous chercherez ensuite à créer vos propres exemples en vérifiant que les mots sur lesquels vous appliquez la règle ne souffrent pas d'exception. N'hésitez pas non plus à écrire les exercices au fur et à mesure que vous les faites. Pour l'étude des déclinaisons, vous utiliserez la répétition rythmée suivi de la visualisation de l'orthographe de chaque terme décliné. Il est également très efficace de réécrire plusieurs fois de suite la série des déclinaisons, mais toujours sous phosphène et les yeux bandés, afin de se servir de la mémoire musculaire. Cette façon de procéder est valable pour toutes les langues et toutes les écritures. Pour l'étude d'alphabets, comme le grec, le cyrillique, ainsi que pour les idéogrammes, il faut bien insister sur la visualisation du mot complet ou du signe, associé à sa prononciation, son accent tonique et son sens, quitte à y passer un peu de temps au début. On s'aperçoit par la suite que non seulement ce que l'on a appris ainsi a été retenu, mais qu'il y a aussi une accélération progressive de la vitesse d'assimilation. Il ne faut donc pas s'inquiéter de ce qu'au début, on ait parfois l'impression d'apprendre comme d'habitude et de ne pas voir la différence pendant que l'on étudie. C'est surtout après, dans la journée, que des éléments reviennent spontanément à l'esprit. Et lorsque l'on a besoin de faire appel à ces connaissances, on s'aperçoit qu'elles sont très présentes et que l'on a aucun effort à faire pour les retrouver. C'est là l'immense avantage de l'étude sous phosphène.
Résumons-nous. La procédure est en fait très simple. Pour les cours sur cassette, l'audition se fait sous phosphène. Répétition des phrases à voix haute, puis mentalement jusqu'à disparition du phosphène. Pour un texte, on pratique la lecture sous phosphène. Pour le vocabulaire, il existe plusieurs modalités. Premier niveau. Répétition rythmée du mot et de sa traduction. Deuxième niveau. Répétition rythmée du mot et d'un synonyme. Troisième niveau. Répétition du mot associé à la représentation mentale de ce qu'il exprime. Le processus est le même pour l'étude des expressions. Pour la grammaire, bien lire la règle et faire les exercices d'application sous phosphène. Pour l'orthographe, imaginez le mot ou le signe écrit dans le phosphène. Écrire le mot plusieurs fois d'affilée jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'erreur. Cette procédure suffit à accroître la capacité d'assimilation et la mémorisation. Elle améliore grandement la prononciation, l'accent et l'intonation. Utilisez-la systématiquement dans votre étude de langue. Afin de vous habituer aux différentes modalités d'application pour un texte, le vocabulaire, la grammaire et l'orthographe. Vous serez certainement surpris de voir les progrès réalisés grâce à ce mode de travail.
Comment apprendre un long texte par cœur? Divisez tout d'abord le texte en plusieurs petites parties et lisez plusieurs fois la première partie. Ensuite, faites un phosphène en vous remémorant ce que vous venez de lire. Après extinction de la lampe, soit dans l'obscurité, soit après avoir remis le bandeau, cherchez à retrouver les principales idées et répétez-les plusieurs fois à voix haute et plusieurs fois mentalement. Puis, relisez ce passage pour voir quelles sont les idées qui vous ont échappé. Relisez-le à plusieurs reprises de manière à replacer ces idées dans le contexte du passage. Refaites un nouveau phosphène en vous remémorant l'ensemble. Puis, pendant la présence du phosphène et dans l'obscurité, cherchez à retrouver le maximum d'idées. Vous vous apercevrez alors que les idées annexes reviennent facilement à la mémoire. Continuez ainsi jusqu'à la fin du passage, puis relisez plusieurs fois ce passage avant de vous le remémorer le plus complètement possible sous phosphène. Après avoir ainsi parfaitement étudié le premier passage, vous passez au second en pratiquant de la même manière. Lorsque vous aurez étudié plusieurs passages de texte, relisez-les plusieurs fois dans la continuité, de façon à ce que les liens entre les différents passages soient renforcés. Et dans un nouveau phosphène, cherchez à retrouver l'ensemble des passages que vous avez appris. Continuez de la même façon pour les parties suivantes en refaisant une synthèse de plusieurs passages, et ainsi de suite jusqu'à la fin du texte. Chaque fois que vous faites une erreur ou que vous avez un trou de mémoire, corrigez immédiatement dans un nouveau phosphène. Lorsque vous aurez étudié toutes les parties du texte, relisez-le plusieurs fois dans son ensemble. Puis, cherchez dans un ou plusieurs phosphènes à retrouver les principales idées et les idées charnières. Et dans une autre série de phosphènes, cherchez à retrouver le texte dans son entier.
Le fait de découper le texte en de nombreuses parties peut donner l'impression d'une perte de temps dans l'apprentissage. Mais en fait, au fil des phosphènes, la pensée est de plus en plus renforcée et le passage précédemment étudié se grave plus profondément dans la mémoire. Après cette étude, il est bon de relire plusieurs fois le texte en reprenant les différents passages, mais cette fois à l'envers. Il ne s'agit pas de relire le texte à l'envers, mais de reprendre les différentes parties du texte en commençant par la dernière pour passer aux autres passages de bas en haut. Cela permet en effet de bien se souvenir des différents liens entre chaque partie, chose sur laquelle on n'insiste jamais assez. Pour finir, on se remémore plusieurs fois l'ensemble du texte, à l'envers, dans plusieurs phosphènes. Pour une poésie très longue, se remémorer chaque première phrase de strophe en commençant par le haut, puis par le bas.
Comment apprendre un long chapitre d'histoire ou d'une autre matière? L'histoire a l'avantage d'être évocatrice de nombreuses images. Ces images sont les associations d'idées qui, lorsqu'on les mêle au phosphène, renforcent le lien avec les événements dont on doit se souvenir. Lors des interrogations et des contrôles, ces images reviennent facilement à la mémoire, ainsi que le déroulement des événements. On se souvient donc beaucoup plus facilement de la leçon en mêlant au phosphène les images évoquées par le contenu du cours. Il existe deux possibilités pour apprendre un chapitre d'histoire. On peut soit commencer par le plus facile, soit étudier d'abord les éléments les plus compliqués. Pour les éléments les plus faciles à apprendre, il suffit d'associer une ou plusieurs images mentales évoquées par le contenu du cours. Il est possible de mixer autant d'associations d'idées que d'événements décrits. Mais on peut aussi mixer une image synthétique qui résume l'ensemble du chapitre. Pour apprendre les données les plus compliquées, comme les noms, les dates, les lieux, les données économiques et politiques, on les mêle tour à tour dans un phosphène autant de fois que nécessaire. Cette subdivision du chapitre en de nombreux éléments n'est pas une perte de temps. Elle permet au contraire d'apprendre avec plus d'efficacité car elle facilite l'emploi du rythme.
Il existe une troisième possibilité très efficace. Lisez deux ou trois fois attentivement une page à la fois. Choisissez quelques mots repères forts, environ 6 à 8 au début. Moins plus tard avec l'entraînement, que vous écrirez plusieurs fois. Puis, notez chaque mot repère sur une fiche sur laquelle vous aurez inscrit auparavant le titre du chapitre. Apprenez-les par cœur, dans l'ordre. Puis, mettez-les dans le phosphène. Vous pouvez commencer à les réciter dès la fixation de la lumière. Quand vous les saurez, sur le bout des doigts, cherchez à revoir ces mots dans la page et essayez de retrouver les phrases ou les paragraphes auxquels elles appartiennent. Faites des associations d'idées. C'est une bonne gymnastique pour le cerveau et l'on devient vite un expert. Ensuite, relisez la page. Si vous avez oublié certains passages, prenez un repère que vous ajouterez à la liste et recommencez. Vous verrez qu'avec l'expérience, très peu de mots seront nécessaires, 3 environ par page, parce qu'à partir de ces repères, vous aurez appris à créer une cascade d'associations d'idées. Puis, vous passerez à la page suivante. Gardez précieusement ces fiches dans votre livre ou votre cahier. Lors des révisions, vous n'aurez plus besoin de relire tous les chapitres, mais simplement de remémoriser ces mots repères forts pour vous souvenir d'une façon durable des cours, d'où un gain de temps énorme et très appréciable. L'idéal serait, s'il s'agit d'un cours sur cahier, de passer les mots repères au fluo jaune. Ainsi, vous les visualiserez mieux à leur remplacement sur la page. Un support très efficace également. Retrouvez mentalement les titres et sous-titres de vos leçons. Mettez-les dans le phosphène. Votre mémoire les enregistrera et le jour de l'interrogation, ils reviendront très nets, comme si vous aviez votre livre ou votre cahier devant les yeux.
À l'issue de ces différentes étapes, vous avez pu vous rendre compte que le mixage phosphénique s'adapte à toutes les matières, à toutes les situations, et on peut le pratiquer à tout âge. Nous ne pouvons décrire toutes les adaptations qu'il est possible de faire dans d'autres domaines. Elles sont nombreuses. On peut, par exemple, utiliser les phosphènes pour apprendre le code de la route. Le processus est le même que celui utilisé pour apprendre les formules de mathématiques et pour saisir la logique des panneaux et de la réglementation de la circulation. Citons également l'action particulièrement intéressante des phosphènes sur le sommeil. La récupération est bien meilleure et l'on se réveille plus reposé lorsque l'on s'endort en faisant quelques phosphènes. Les personnes qui habituellement ne se souviennent pas de leurs rêves s'en souviennent de mieux en mieux. Les rêves deviennent plus colorés, plus lumineux et beaucoup plus intenses qu'à l'ordinaire. Les images du rêve sont souvent miniaturisées par les phosphènes, c'est-à-dire qu'elles prennent des proportions impressionnantes que les enfants adorent. De plus, les rêves deviennent plus riches en action et beaucoup plus logiques. L'action des phosphènes sur les rêves est particulièrement motivante pour les enfants qui ne trouveraient aucune raison d'utiliser les phosphènes pour leur révision.
Comment pratiquer les phosphènes en vous endormant? Placez votre lampe à phosphène en face de votre lit. L'idéal serait qu'elle soit en haut d'une armoire ou accrochée à un clou au mur en face de votre lit. Il faut qu'il y ait une distance de 2 mètres, voire 3 mètres, entre vous et la lampe. La lampe doit être face à vous, car vous ne devrez pas avoir à tourner la tête ni à droite ni à gauche pour l'observer. Vous l'allumerez normalement, tel que vous avez l'habitude maintenant de le faire pour faire votre phosphène, donc durant 30 secondes, puis après l'avoir éteint, vous observerez simplement les phosphènes. Mais dès que vous arriverez à la couleur bleue foncée du phosphène, vous rallumerez immédiatement votre lampe. Vous reformerez de nouveau le phosphène. De nouveau, vous observerez le phosphène jusqu'à sa couleur bleu foncé. Et vous rallumerez votre lampe, ainsi de suite. Bien souvent, on ne va pas jusqu'à 4 phosphènes, car on a tout de suite plongé dans le sommeil. Et durant les couleurs du phosphène, vous observerez au bout de très peu de temps, voire un mois dans les cas difficiles, une amélioration de votre nuit et de vos rêves.
La pratique quotidienne des phosphènes dans l'étude a également une action importante sur la persévérance. En effet, étant plus attentif aux cours, l'étudiant les comprend mieux et prend plaisir à aller au bout de ce qu'il entreprend. En outre, les phosphènes stimulent la curiosité intellectuelle. L'enfant et l'étudiant, ayant davantage d'idées et de réflexions personnelles, cela les rend curieux et ils prennent l'initiative de chercher les réponses à leurs questions. Beaucoup, enfants comme adultes, ouvrent des livres qui ne les auraient jamais intéressés s'ils n'avaient pas eu l'énorme apport des phosphènes. Les effets des phosphènes sur le caractère sont aussi très évidents. Ils produisent un très grand optimisme et une plus grande joie de vivre. La timidité disparaît d'elle-même et l'esprit d'initiative prend le relais. La tension, le stress, la dépression ont beaucoup moins d'influence sur l'individu qui peut ainsi lutter efficacement contre ces fléaux. Les agressions de la vie sociale, les petites mesquineries quotidiennes, perdent en intensité dramatique et affective. L'équilibre individuel s'en trouve renforcé. C'est alors l'ensemble de la personnalité qui bénéficie de la pratique des phosphènes. Comme vous pouvez le constater, les découvertes du docteur Lefébure sont particulièrement importantes. Les différents aspects que nous avons étudiés sont une toute petite partie de son œuvre considérable. Ses découvertes de physiologie cérébrale à partir des phosphènes lui ont permis d'ouvrir de nouvelles voies d'exploration du cerveau et d'apporter une compréhension et des applications nouvelles pour l'épanouissement cérébral. Fin de la sixième étape.
Vous allez maintenant effectuer une autre variété de phosphène, appelée co-phosphène, ou phosphène associé à l'éclairage. Pour l'obtenir, vous allez fixer votre lampe, non plus 30 secondes, mais 3 minutes. Vous vous souvenez que l'on détermine la durée des 30 secondes pour un poste phosphène, ou phosphène consécutif à l'éclairage, par le fait que l'éclairage devient bleuté. Dans cette expérience de co-phosphène, vous poursuivrez cette observation au-delà de la couleur bleutée. Nous allons faire ensemble cette expérience. Allumez votre lampe. Observez-la. Elle commence tout doucement à prendre une teinte bleutée. La couleur de votre lampe doit être bleue. Première couleur du co-phosphène ou phosphène associé à l'éclairage. Continuez à l'observer. Votre lampe est-elle toujours bleutée? Elle doit maintenant vous paraître plutôt rosée. Continuez à l'observer. Notez les nuances. Quelle est sa couleur? Vous devez la percevoir légèrement jaune. Maintenant, éteignez votre lampe, mettez votre bandeau et observez le phosphène. Maintenant, ôtez votre bandeau, rallumez votre lampe. Il vous reste peut-être encore un peu du phosphène. Quelle couleur a votre lampe? Observez votre éclairage. Sa couleur doit être bleutée. Maintenant, de quelle couleur est votre éclairage? Prenez le temps d'observer votre éclairage et de noter les nuances de couleur. Vous observerez qu'il y a une symétrie entre le post-phosphène et le co-phosphène. En effet, dans le post-phosphène, nous commençons à percevoir du jaune, puis du rose, puis du bleu, principalement. Et dans le co-phosphène, ou phosphène associé à l'éclairage, nous commençons d'abord par percevoir du bleu, puis du rose, et enfin du jaune. Mais y a-t-il d'autres couleurs? Observez votre lampe. Fin de l'expérience du co-phosphène. Quelle différence avez-vous trouvée entre le post-phosphène et le co-phosphène? Certainement, vous avez dû observer que votre phosphène était un peu plus brillant que le post-phosphène. Pour les applications pédagogiques du phosphénisme, nous ne nous servirons quand même pas de cette catégorie de phosphène appelée cophosphène. Vous noterez également que ce n'est pas parce que vous avez observé l'éclairage 3 minutes que votre phosphène est énormément plus beau.
L'alternance des phosphènes doubles. Nous avons beaucoup insisté sur la notion des rythmes cérébraux et il est tout à fait possible d'observer certains de ces rythmes à l'aide des phosphènes grâce à une petite installation très simple. Le comportement rythmique des phosphènes nous permet de bien comprendre qu'il est important d'intégrer le rythme dans l'étude afin de respecter les processus cérébraux, d'aller dans leur sens et d'accroître de ce fait la totalité des capacités mentales. En effet, si l'on place deux lampes devant soi, une devant chaque œil, avec une séparation entre les deux lampes, par exemple un morceau de carton contre lequel on vient poser le front et l'arête du nez, de façon que chaque œil fasse un phosphène séparé, et que l'on fixe ces deux lampes pendant environ 30 secondes, on n'obtient pas deux phosphènes présents en permanence dans le champ visuel, mais deux phosphènes qui alternent. Ce sont ce qu'on appelle les phosphènes doubles. Or, les phosphènes doubles s'éclipsent tour à tour, mais, de temps en temps, ils sont tous deux présents dans le champ visuel, ou encore, tous deux absents durant très peu de temps. Cela signifie que nos yeux ne voient pas simultanément, contrairement à ce que nous croyons percevoir, mais qu'un œil voit, puis l'autre, puis l'un, puis l'autre, et ainsi de suite. Ce n'est qu'après une série d'alternances que les deux yeux ont une perception commune synthétique. Les yeux, comme tout autre organe des sens, sont régis par les deux hémisphères cérébraux. Si l'on voit les deux phosphènes s'éclipser et réapparaître en alternance, cela signifie que les deux hémisphères ne travaillent pas simultanément, mais en alternance. Vous pouvez faire cette expérience avec une seule lampe. Pour cela, il suffit de prendre deux rouleaux de carton, comme les cartons sur lesquels sont enroulées les feuilles de papier d'aluminium ménager. Placez-les devant chaque œil, en les écartant un peu, de manière à percevoir deux lampes au lieu d'une seule. Les rouleaux font office de séparateurs de champ visuel et facilitent la perception de deux lampes. On peut aussi le faire en plaçant les doigts autour des yeux, comme lorsque l'on fait semblant de regarder au loin avec des jumelles. Les doigts doivent être bien recourbés en demi-cercle et les pouces placés contre la racine du nez. Il s'agit de regarder tout d'abord en direction de la lampe allumée, puis de reporter le regard sur les pouces pour converger. Un œil a toujours tendance à quitter la position, ce qui fait perdre la perception des deux lampes. Il faut faire l'effort de reporter à nouveau le regard sur les pouces. C'est pourquoi il est plus facile de réaliser cette observation en utilisant des rouleaux de carton. Les rouleaux placés contre les yeux sont légèrement écartés l'un de l'autre. Vous devez reporter votre regard à l'intérieur des tubes, sur la paroi du milieu, de façon à ce que vous perceviez deux lampes. Par contre, pour que les phosphènes soient plus gros, donc plus visibles, il faut se placer à environ un mètre de la lampe. La fixation dure également une trentaine de secondes. Après avoir ainsi fixé la lampe, fermez les yeux puis éteignez, afin d'observer les deux phosphènes. Il peut y avoir un troisième entre les deux autres. Il correspond à la fixation directe de la lampe avant de converger, mais il faut surtout observer les deux phosphènes latéraux. Si vous souhaitez faire l'observation des phosphènes doubles, arrêtez maintenant votre magnétophone.
Cette expérience des phosphènes doubles nous permet de mieux comprendre le processus des rythmes cérébraux que l'on peut parfaitement observer avec les phosphènes doubles. Ils nous permettent de comprendre bien des choses sur l'évolution de notre propre pensée. En effet, comme les organes des sens, la pensée est gérée par ces mêmes rythmes et par conséquent, cette alternance cérébrale a une grande importance sur le plan pédagogique, car elle explique pourquoi on ne peut fixer longtemps son attention sur un travail, quel qu'il soit. Elle explique aussi pourquoi les enfants ont du mal à tenir en place peu de temps après avoir commencé une étude. En fait, ils ne peuvent fixer très longtemps leur attention sur un sujet, parce que leurs rythmes cérébraux sont bien plus rapides que ceux des adultes. Les adultes ne peuvent pas mieux faire que les enfants, bien que certains le croient. En fait, il n'est pas possible de conserver longtemps une même pensée à l'esprit. C'est une impossibilité physiologique. Si l'enfant s'agite et si l'adulte ne comprend pas les phrases d'un livre alors qu'il les a lues et relues 10 fois de suite, c'est parce qu'il se produit une saturation des zones du cerveau qui sont sollicitées. D'où la nécessité de s'arrêter le temps que ces rythmes se régularisent. C'est pourquoi, physiologiquement, il ne faut pas faire de longues séances d'études, mais de courtes séances répétées souvent. Ou encore, changer fréquemment d'activité ou de matière. Ainsi, évite-t-on la fatigue que l'on cumule inutilement lorsque l'on étudie plusieurs heures d'affilée. Étudier pendant des heures aboutit à une saturation générale du cerveau et de l'organisme dans son ensemble, ce qui provoque la fatigue, le stress et la dépression si l'on insiste inconsidérément. Il faut absolument ménager des moments de pause dans l'étude, ce qui rend cette dernière plus efficace et plus agréable. Mais l'importance des programmes est telle qu'elle oblige les étudiants à travailler plusieurs heures d'affilée. Dans ce cas, les conseils et techniques donnés dans ces cassettes amélioreront considérablement les conditions d'étude et d'apprentissage des étudiants. Fin de la 7e cassette. Suite sur la cassette numéro 6.